Aujourd'hui, je suis bien heureux de te laisser entrer pour quelques minutes dans le Mastermind Momentum de l'Académie du podcast. Tu vas avoir l'occasion d'entendre ce qui se passe réellement à l'intérieur de ce Mastermind-là. L'Académie du podcast, c'est pour toi, podcasteur aguerri ou en devenir, qui veut projeter ton message aux oreilles du plus grand nombre de personnes possible. À chaque épisode, on traite d'un sujet qui va t'aider à amener ton message encore plus loin. Je te remercie de passer quelques minutes avec moi aujourd'hui. C'est parti! Je l'ai peut-être jamais dit encore, mais le groupe de l'Académie du podcast, c'est présentement 27 podcasteurs qui travaillent à améliorer les résultats de leur podcast. Donc, pour certains d'entre eux ou elles, ce sont des gens qui sont au début de leur processus, au début de leur parcours de podcaster. D'autres sont un peu plus avancés, ont déjà plusieurs dizaines d'épisodes à l'intérieur de leur podcast. Mais dans un cas comme dans l'autre, c'est des gens qui viennent pour améliorer leur processus, pour améliorer leur parcours. Donc, ça me fait particulièrement plaisir de te faire découvrir aujourd'hui qu'est-ce que ça a de l'air vu de l'intérieur, ce groupe-là de l'Académie du podcast, mais plus précisément, à quoi ils peuvent avoir droit à chaque mois. En fait, le groupe Momentum, le groupe du Mastermind Momentum, ont droit à 4 activités par mois, donc une par semaine, en plus d'une période de questions, un Q&A, comme on appelle en bon français, à chaque semaine également. Donc, il y a 8 activités dans le mois et ils ont accès à ça en rediffusion, ils ont accès à ça en live également. Et une de ces activités-là qui revient pas mal à chaque mois, c'est une activité de masterclass. Et il y a quelques semaines, j'ai eu la chance et l'honneur de recevoir un représentant et un technicien tout à fait incroyable au niveau du son chez Rode Canada. Donc, la personne que j'ai reçue, c'est un expert dans le domaine du son, dans le domaine sonore. Il est venu nous présenter un peu comment on doit choisir nos micros, comment on doit faire attention à l'environnement dans lequel on enregistre. Précisément, qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse pour vraiment arriver à bien sélectionner et à bien installer aussi l'ensemble des équipements qu'on allait utiliser par la suite pour animer notre podcast. Donc, ce que j'ai pensé te faire découvrir, te laisser entrer pour quelques minutes, en fait, pour la durée du masterclass. Donc, tu vas avoir accès, justement, à toute l'intervention de Benoît Varin de la compagnie ADI Pro. Mais c'est, en fait, le représentant de Rode, ici, dans la région de au Québec, en fait. Et donc, j'ai pensé te faire découvrir comment il est venu intervenir dans le groupe. Je te fais grâce de la période de questions-réponses à la fin. Il y a eu plusieurs questions et réponses qui ont été posées à la toute fin par les membres qui ont eu accès à cette période-là. Je te fais grâce évidemment de cette période de questions-là, mais tu vas quand même pouvoir découvrir un peu qu'est-ce que ça a de l'air vu de l'intérieur. Et si jamais ça t'intéresse de déposer ta candidature, parce que les portes du Mastermind du Mastermind Momentum sont présentement fermées, donc c'est impossible pour toi d'entrer dans ce mastermind-là au moment où on se parle, mais très bientôt, il va y avoir une réouverture des portes et on va accepter des nouveaux membres. Donc, ça, ce que ça veut dire dans les faits, c'est que tu vas avoir la possibilité de te joindre à ce groupe de 27 personnes-là qui sont là pour améliorer leur podcast semaine après semaine. Tu vas avoir la possibilité de le faire dans quelques semaines et d'ici ce temps-là, ben, tu auras juste à déposer ta candidature directement sur une liste d'attente. Donc, tu vas avoir accès à ça en tapant le academypodcast.com/momentum, tout simplement, et tu vas automatiquement atterrir sur la page sur laquelle tu dois déposer tes coordonnées pour qu'on puisse t'aviser lorsque ce sera disponible à nouveau. Donc, sans plus tarder, je te laisse à ce masterclass avec Benoît Varin et puis je te reviens tout de suite après.
Merci beaucoup d'être là pour ce premier masterclass. On va être pas mal gâtés dans ce premier masterclass-là parce qu'on a un vraiment, vraiment très, très bon interlocuteur avec nous il était, je vais mettre de la pression tout de suite, Benoît, puis t'éteindras les feux après. Benoît Varin, c'est un technicien de son. Il a été technicien de son pendant 14 ans. Maintenant, il est représentant chez Adipro. Puis là, ben, il vient de m'apprendre que ça s'est, son territoire s'est agrandi. J'ai dit qu'il était là pour le Québec, mais il est là pour les Maritimes, il est là pour la grande région d'Ottawa. Puis là, ben, il vient de décoper, si on peut dire. La COVID vient lui donner l'Ontario au complet, donc ça va très bien chez lui. Ensuite, il a été aussi rédacteur technique chez Québec Audio pendant 5 ans. Bon, là, il a pris une petite pause, évidemment, avec tout le travail qui s'ajoute à ce qu'il y a à faire. Et puis, ben, c'est ça. Donc, super heureux de t'accueillir, Benoît. Merci beaucoup d'être là. Merci d'être parmi nous. Les gens vont se mettre sur mute pour la durée de ta présentation. Et puis, moi, je vais interagir avec toi pour les questions. Puis, par la suite, ben, il va y avoir une période de questions à la fin. Donc, il y a évidemment des gens qui veulent en apprendre plus là sur les bases de la sonorisation. Il y a des gens d'Europe, il y a des gens du Canada qui sont là présentement. Il y a aussi des gens qui vont écouter ça aussi en rediffusion. Fait que les questions à la fin, mais il va peut-être avoir des gens qui vont avoir des questions par après. Si jamais c'est le cas puis que tu es en train d'écouter ça en rediffusion, faites juste m'envoyer les questions à moi personnellement, puis je m'arrangerai pour faire suivre à Benoît pour qu'on puisse avoir des réponses en lien avec ça. Puis je sais qu'il y a des gens qui ont préparé leurs questions aussi là pour la séance d'aujourd'hui. Excellent. Donc, les sujets qu'on va traiter aujourd'hui, on va parler évidemment des familles de microphones. On va parler aussi de comment choisir notre microphone en fonction de l'environnement, en fonction du contexte de nos enregistrements. Qu'est-ce qu'on doit surveiller quand on veut choisir un micro qui fait du sens pour un podcaster qui veut sonner comme un pro. Je veux qu'on fasse aussi une petite... je veux qu'on parle aussi de la distinction entre le micro USB et le micro XLR. Il y a des gens aussi qui se posaient la question éventuellement si c'était mieux d'utiliser un enregistreur digital plutôt qu'un micro ou les deux, ou en tout cas, bref, un peu démystifier tout ça. On va parler de la fameuse console Rodecaster Pro, puis à la fin, ben, on va avoir notre Q&A. Fait que, à toi la parole, mon cher Benoît, je te laisse aller.
Merci beaucoup, Marco. Écoutez, d'abord, je suis super content d'être ici avec vous autres aujourd'hui. Bon, on travaille maintenant un peu dans des contextes différents, dans le sens que on travaille beaucoup avec des présentations web, comme on fait aujourd'hui. C'est bien correct. Moi, je suis un représentant sur la route, comme Marco le dit, pardon. Et puis, bien entendu, j'aime beaucoup le contact avec mes clients. Moi, je suis un jeune représentant, mais je travaille old style, c'est-à-dire j'aime beaucoup me déplacer, j'aime beaucoup faire des conférences. J'ai un petit peu de professeur en moi, certains s'amusent à me dire. Puis je le travaille un peu à mon avantage là quand je parle un peu de mes produits, mais des technologies aussi là reliées. Et puis ce que je vais faire aujourd'hui, c'est un peu ça. C'est que je vais vous parler. Marco m'a donné un peu deux mandats, il vous l'explique un petit peu. Donc le premier mandat, évidemment, c'est de parler un peu des technologies qui sont impliqués lorsqu'on fait de l'enregistrement. Moi, j'ai pas un background comme vous en podcast. Peut-être que certains de vous ont déjà fait de l'enregistrement musical. C'est plus mon domaine, entre autres. Par contre, le podcasting, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est de l'enregistrement. Donc, le premier mandat, c'était un peu de vous parler un peu des technologies alentour de tout ça. Moi, je vais vous le parler, je vais vous le présenter en vous présentant la chaîne audio. La fameuse chaîne audio, le audio link en anglais. Je vais utiliser un petit peu des termes anglophones. J'adore le français, mais c'est un langage technique. Fait que excusez-moi s'il y a des termes que vous allez retrouver sur Internet de toute façon qui sortent en anglais. Donc voilà, je vais vous présenter les produits de Rode. Bien entendu, je suis représentant de Rode. Marco représente très bien de son côté aussi ma gamme de produits. Donc, on va en parler. Bien entendu, Rode est très fort dans le podcast, mais tout en parlant toujours de la fameuse chaîne audio. Donc, si vous voulez, on se lance. Donc, Rode, là, pour faire un background très rapide, je partirai pas dans toute l'historique, on n'a pas vraiment le temps, mais Rode revient un peu à ses anciens amours avec le podcast. Je m'explique. Rode, c'est une compagnie de la famille Friedman, en Australie. La première génération qui ont parti Rode, qui ont parti Fredman Electronics, travaillait en broadcast. Donc, à cette époque-là, équipait les stations de radio commerciales et travaillait dans le commercial audio en Australie. Donc, faisait beaucoup de choses, custom, dans des applications très, très, très spécifiques avec des niveaux électriques très spécifiques. Ils ont inventé des capsules de microphones. C'est comme ça que ça a commencé avant d'être une compagnie commerciale. Donc, le podcast, ben, Rode retourne un peu dans qu'est-ce qu'il l'a lancé, en gros. Donc, il n'y a rien de réellement nouveau dans le truc. Évidemment, quand on parle de technologie, on applique des technologies à la sauce podcast. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que présentement, on a des technologies qui existent depuis longtemps. En podcasting, comme tout autre type d'enregistrement, même en sonorisation, qui n'est pas de l'enregistrement, il y a des petites différences, là, mais c'est toujours une chaîne audio qu'on va travailler. C'est un peu comme une rivière avec un barrage. C'est-à-dire, il ne faut pas restreindre partout notre gain quand on arrive à un stage d'amplification. C'est-à-dire qu'il faut avoir une source qui est forte, faire travailler nos machines, faire travailler nos appareils audio, faire moduler, comme on appelle. Donc, envoyer un bon voltage partout, pas ramasser de bruit de fond. C'est toutes des petites techniques là qui sont dans la chaîne audio. Évidemment, la chaîne audio, ça comporte quoi, en gros? C'est un peu ça qu'on se pose comme question. Avant même de parler d'équipement, là, moi ici, j'ai un NTG5 au-dessus de ma tête, vous le voyez pas. C'est un microphone de type shotgun. Il y a toutes sortes de technologies qui vont vous aider à faire ce que vous voulez faire. Mais ça comporte quoi? Avant même de parler de microphone, qui peut-être d'après vous est le premier maillon de la chaîne, il y en a deux autres, moi, que je peux voir. Que vous, à la maison, dans votre studio, dans votre espace de travail, que vous contrôlez, que vous pouvez contrôler tous les jours. Première chose, c'est ce qu'on appelle le talent. Donc, le talent, dans votre cas à vous, ça va être l'animateur. Le talent, c'est un terme qu'on utilise de façon générale en cinéma. Donc, c'est la personne qui va parler dans le micro, qui va faire l'animation de votre podcast. Est-ce que vous êtes en voix dans votre journée? Est-ce que vous avez une grippe avec une voix nasillarde? Il y a toutes sortes de choses. Si vous êtes juste technicien, donc vous faites la technique d'un podcast, mais que vous avez un animateur, la sélection de votre animateur. Vous savez, une voix FM, c'est bien beau de travailler l'effet de proximité en s'approchant d'une capsule dynamique. On va voir ça tantôt. Mais reste que une personne qui a du coffre, c'est une personne qui a du coffre. Donc, ça, c'est le premier maillon de la chaîne. Deuxièmement, avant le micro, il y a quoi entre ma bouche et mon micro? Il y a mon environnement acoustique. Ça, c'est le deuxième maillon de la chaîne. Dans quoi vous faites votre podcast? Dans un garde-robe? Dans une grande salle? Dans un hall d'entrée? Dans un bureau? Les dimensions de votre salle. Il y a ce qu'on appelle des golden rules en anglais, ou disons des paramètres au niveau des distances entre les murs, la hauteur des plafonds, qui vont travailler sur certaines fréquences, qui vont les rendre peut-être meilleures, mais qui peuvent les rendre pires. Je m'explique. Donc, l'environnement acoustique, vous avez des fréquences qui frappent dans une salle, disons, de 11 pieds, 12 pieds de large. Il y a certaines fréquences qui vont venir ronfler à votre position ou ce que vous diffusez. Donc, va changer la nature de votre son, de la source sonore. Donc, c'est important à considérer. En arrière de moi, je me suis placé ici essentiellement pour ça aujourd'hui. En arrière de moi, vous voyez, il y a des diffuseurs dans le milieu. Donc, c'est un panneau qui va, quand une fréquence qui va frapper ça, ça va diffuser de façon plus égale dans une pièce. Donc, ça peut aider. Vous voyez les panneaux noirs, c'est de l'absorption. Donc, c'est un fin mélange entre les deux. Il y a des façons d'analyser ça. On se lancera pas dans ça aujourd'hui. Ça pourrait faire deux heures juste ça. Mais c'est juste pour vous dire que la chaîne audio, elle commence là. Avant même de parler de micro. Mais là, on va parler de micro parce qu'on est rendu là. À un moment donné, l'acoustique, on pourrait faire un autre truc à un moment donné puis en parler plus en détail avec les petites solutions pas chères, les petits trucs que j'ai pour sauver des sous pour travailler efficacement. Les microphones. Là, on arrive aux technologies. Comme Marco m'a demandé, puis c'est tout à fait logique, on va démystifier un peu les types de microphones. Oui, on a les micros USB, mais si tu permets, Marco, je vais mettre ça dans la catégorie interface. Pourquoi? Parce qu'il y a une interface à l'intérieur. Puis, ça fait que ça rend le produit différent un peu. Bon, voilà. Les microphones en tant que tels. On a deux types de microphones en gros. Il y en a plus. Mais ce qui nous intéresse présentement, on va y aller avec deux catégories. Évidemment, on a les microphones dynamiques et on a les microphones condensateurs. Donc, les microphones condensateurs, dynamiques, pardon, c'est des microphones en gros qui a une capsule ou un diaphragme qui est attaché de façon mécanique à une bobine mobile. Donc, c'est une électronique, en gros, qui est tout à fait passive. Vous n'avez pas à mettre le phantom power, en gros. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner, un microphone dynamique? Ça va nous donner une électronique qui est beaucoup plus robuste, OK? On va être capable d'envoyer plus de pression acoustique sur un microphone dynamique. Si vous voyez Marco actuellement, il y a le PodMic. Le PodMic, c'est une version broadcast d'un microphone dynamique. Donc, Marco n'active pas le Phantom Power sur sa console pour activer ça. Il donne juste du préamplificateur. Il y a d'autres microphones que vous connaissez. Là, je vais nommer des marques, des classiques, que j'ai pas le choix. On parle du Shure SM7. Bien sûr, on en parle. C'est un classique en radio. Je pense que Marco s'en... C'est ça. Et voilà, Shure SM7. Autre microphone, excusez-moi, on va prendre un petit gorgée. Autre microphone dynamique, c'est un classique en radio. Utilisé aussi pour le chant en studio, soit dit en passant. A des très, très, très belles caractéristiques. C'est un micro qui est très massif au niveau du coffre. Donc, il est très prisé à ce niveau-là. Par contre, Marco, tu le confirmeras, ça prend du préamplificateur. Il faut qu'on tourne le piton. Par contre, c'est pour ça que moi, je vais toujours conseiller avec un SM7, parce que j'en ai eu un à l'époque quand je faisais du recording, avoir un Cloud Lifter. Ça, si jamais, informez-vous sur le web. Cloud Lifter, c'est un modèle, mais il y en a toutes sortes d'autres. En fait, c'est un boost, c'est un upscaler, dans le fond, c'est un transfo qui va donner un boost en voltage pré-préamp. Si on pourrait dire. Donc, vraiment, votre source avant le préamp est plus forte. J'ai parlé de la rivière tantôt. Fait que ça va être avant le préamp. Ça travaille très, très, très bien. Donc, voilà, pour les micros dynamiques. Évidemment, il y a moins d'entretien sur ces microphones-là. C'est des microphones qui sont plus robustes. T'sais, un microphone dynamique, en gros, vous l'échappez à terre, il va être encore bon. C'est une électronique qui est faite pour, vous savez, les microphones sur les stages de musique avec les chanteurs, c'est des microphones pour la plupart dynamiques. Il y a des condensateurs aussi, mais la plupart, c'est des dynamiques. Puis, écoutez, ça se lance dans le fond des camions, les compagnies de location. C'est des micros très robustes. Par contre, robustesse vient un peu avec la masse. Tout le côté électromécanique d'un micro dynamique, c'est plus massif. C'est plus robuste, plus massif automatiquement, un petit peu moins sensible. Donc, en gros, ben c'est une bobine, c'est un diaphragme, pardon, qui est attaché mécaniquement à une bobine. Et ça bouge avec la pression acoustique dans un ensemble d'aimants qui va être placé d'une façon différente. Tu vas avoir des petits aimants, des plus gros, tout dépendant de la gamme du microphone. Donc, c'est un peu ça. Et au bout, la résultante, bon, on sort un voltage. Évidemment, bon... On a un petit peu moins de détails versus un condensateur. Vu que c'est un microphone qui est moins sensible veut dire un petit peu moins de détails. Mais encore là, c'est un microphone qui va très bien travailler sur l'effet de proximité que je parlais tantôt. Donc, prenez votre microphone dynamique, un petit test que vous pouvez faire. Approchez-vous de votre microphone, faites un recording, éloignez-vous. Vous allez voir que ça va ronfler pas mal plus dans les basses. Ça va être plus punché un peu. Donc, un microphone dynamique rend ça de façon... je pourrais dire plus efficace versus un condensateur qui va peut-être avoir tendance un petit peu à saturer et à vous sortir une petite distorsion si vous sortez beaucoup de basses fréquences. Donc, c'est quelque chose qu'il faut considérer dans le choix de son microphone. Évidemment, chez Rode, qu'est-ce qu'on a comme microphone dynamique? Des exemples. J'ai parlé du PodMic tout à l'heure. Le premier microphone de ce type-là qu'on a eu chez Rode, en fait, on a deux versions. Il y a une version qu'on va parler plus tantôt. On a le Podcaster et on a le le podcaster et la version USB aussi, Procaster. Donc, le Procaster, c'est un microphone qui est noir. Lui est connecté en USB, donc c'est un microphone analogique, tout à fait comme le pod mic qu'on a là, versus, disons, le Podcaster qui, lui, est la version USB. Donc, c'est des micros qui ressemblent un petit peu au... non, celui que j'ai vu ici par Lynn, ça, c'est le NT-USB. Ça, on va parler un petit peu de ce microphone-là dans les interfaces tout à l'heure. Très bon microphone, d'ailleurs. Donc, à ce niveau-là, on peut faire un peu la distinction. Le Procaster, c'est vraiment une version plus allongée, plus un peu comme le RE20 de Electro Voice, qui est un autre, je vous invite à aller voir ce microphone-là, qui est un autre microphone classique. Puis il y a un preset de ça dans la Rodecaster Pro, d'ailleurs, tellement que c'est un classique. Donc, c'est un peu ça que ça recrée. Un effet de proximité, une voix FM, là, vraiment... on met beaucoup l'emphase sur ça. Donc, c'est un microphone qui est intéressant à regarder aussi. Et je vous ai dit tout à l'heure aussi qu'il y a la version blanche, qu'il y a la version USB. Ensuite de ça, si on regarde les autres microphones qu'on a dynamiques... évidemment, on a un microphone qui souvent est oublié. Si à un moment donné, vous partez avec votre Rodecaster Pro, vous allez faire une pré-entrevue quelque part pour envoyer sur les pads, faire un playback qu'on appelle dans votre émission. Vous avez peut-être des entrevues que vous allez pré-enregistrer. On a un excellent microphone pour ça, qui est un microphone aussi dynamique, qui est le Reporter. Donc, je vous invite à aller regarder ça aussi, qui peut être un complément à votre kit. Ici, on a le Procaster, voilà. Ça vous donne une idée un petit peu de qu'est-ce qu'il y a là, le microphone. Donc, c'est typiquement un look, typiquement le look radio. Donc, on a la version Podcaster aussi, qui est la version blanche de ça, qui est un microphone USB. Mais la même électronique, là, avant le convertisseur. Donc, c'est un petit peu les microphones dynamiques qu'on a. Oui, ça, c'est le Podcaster, voilà. Un microphone dynamique que souvent mes clients oublient chez Rode, pourtant, c'est un super bon bargain pour le prix, qui travaille très bien, c'est le M1. Le M1 et le M1S, qui sont des microphones typiquement vocales sur un stage de chant. C'est des microphones qui sont extrêmement robustes versus d'autres concurrent. C'est un microphone que si on l'enregistre sur le site de Rode, on a une garantie à vie. Ça, c'est assez rare qu'on voit ça quand même. Donc, pour les compagnies de location, là, ils en raffolent. Là. Après 10-12 ans, ils peuvent avoir un service dessus s'il est brisé. C'est vraiment le fun. C'est pas un microphone qui est dispendieux. C'est un microphone que la réponse en fréquence se comporte un peu comme un condensateur. Donc, on a un petit bump dans les hautes fréquences qui rend le microphone très, très, très aérien dans son son, très ouvert, versus d'autres modèles, bon, que je vais taire le nom, là, que vous connaissez, il y a un classique là-dedans. On a fait beaucoup de tests et puis on a vraiment quelque chose de super bien ici. Ça peut s'installer sur un desk, un stand de table. Ça peut se mettre sur un PSA1, un stand articulé, comme Marco a présentement. C'est un microphone qu'on peut travailler, tu sais, quand on a peut-être un petit peu plus un budget sur le microphone qu'on veut mettre, un peu plus limité. Vous avez néanmoins quelque chose de super bien ici. Donc, c'est à peu près tous les microphones dynamiques qu'on a chez Rode, là, mais disons, qui pourraient travailler pour le podcasting. Évidemment, deuxième type de microphone qu'on a chez Rode et dans d'autres manufacturiers, bien sûr, c'est les condensateurs. J'en ai parlé tout à l'heure. Grosso modo, un condensateur, c'est quoi la différence avec un dynamique? Ben, grosso modo, ça va être dans son rendu, évidemment, mais son électronique travaille de façon différente. Grosso modo, un condensateur, on a le diaphragme. On a une plaque arrière qu'on appelle un backplate. Les deux sont mis sous tension. Donc, c'est là le phantom power. C'est là qu'on en a besoin, ou la batterie à l'intérieur. À ce moment-là, on a une statique qui est créée entre les deux plates. Et c'est cette statique-là qui est convertie en voltage, grosso modo. Beaucoup plus précis comme microphone. Au niveau détail, surtout, je vous dirais, dans... les moyennes fréquences jusqu'aux hautes, on sent vraiment le détail. C'est là que l'oreille humaine va percevoir plus de détails, puis vraiment, ça se perçoit. Évidemment, on a des bons dynamiques et on a de mauvais condensateurs. Donc, Un, je vous dirais pas d'aller nécessairement vers un condensateur. Non, non, non. Tout dépendant de qu'est-ce que vous avez besoin de faire aussi. Donc, c'est important de d'y penser. Puis de la façon de travailler le microphone, c'est important aussi. Évidemment, bon, j'ai parlé de la sensibilité. De façon générale, un microphone condensateur, comme le NT1 noir qu'on a là, c'est un microphone qui est plus détaillé. Donc, on va être capable de, vu qu'on a un voltage qui va être plus précis, si on pourrait dire, on va être capable d'aller chercher dans la suite de courant électrique, on est capable de déceler, d'aller chercher plus de détails au niveau du voltage une fois le rendu sonore converti. Donc, à ce niveau-là, on a vraiment un microphone qui peut vous donner un très bon coup de main si vous n'avez pas une voix nécessairement très, très forte. Ça peut être quelque chose qui peut être bien parce que, comme je vous dis, ces microphones-là, de façon générale, sont beaucoup plus sensibles que les dynamiques. Si vous avez un préamplificateur qui n'a pas énormément de gain, on parle d'une quarantaine, 45 dB au maximum, souvent un condensateur peut vous donner une aide additionnelle à vous éloigner du bruit de fond. Donc, c'est à considérer, finalement. Voilà pour les micros. Ensuite de ça, si on continue dans la chaîne, il y a une chose aussi qui est très importante, c'est la perche. Comme Marco présente présentement, Marco a le PSA1 de Rode, qui est une perche sans aucun spring. Donc, il n'y a pas à long terme de squeak vraiment possible quand on déplace le bras. Ça, c'est intéressant. Il y en a sur le marché qui ont des springs aussi puis qui squeakeront jamais. Tout dépendant un peu de la qualité de qu'on veut mettre. Ici, on travaille avec des élastomères là, qui sont sous tension dans les joints, dans les coudes. Là. Donc, on travaille avec vraiment un produit là, qui n'a pas besoin de spring. Puis qu'au niveau de la résistance, pour pas que le stand tombe, bien, c'est tout raté avec tous les microphones, évidemment, de Rode et la plupart de ces types de microphones-là sur le marché. Et même les condensateurs large diaphragme. Donc, il n'y a pas de problème. Un PSA1, c'est... De toute façon, si vous n'êtes pas sûr, vous allez sur le site de Rode, vous pouvez voir le PSA1, les spécifications sont en combien et combien de grammes pour le microphone. Vous regardez le microphone que vous voulez vous acheter et vous pouvez savoir rapidement, parce qu'un PSA1, c'est important que quand on le relâche, qu'il reste exactement à sa place. C'est super important. Donc, c'est pour ça qu'il faut travailler ça dans les paramètres. Sinon, qu'est-ce qu'on peut prendre? On peut prendre un stand, ce qu'on appelle un boom pole, un stand qui s'en va à terre, tout simplement comme un chanteur sur un stage, avec une pole qui va venir en dessous de notre bouche. Ça peut travailler comme ça aussi. On peut travailler avec un petit stand de table, un petit tripod, pourquoi pas. Ça peut se travailler aussi. Donc, je trouve ça, je trouve qu'il y a des belles variantes à ce niveau-là. Tout dépendant de votre installation, tout dépendant avec quoi vous êtes à l'aise, comment vous êtes assis. Tu sais, quand on fait un podcast, là, on peut le recommencer une couple de fois. On peut avoir du montage à faire par après. Donc, c'est important d'avoir une bonne posture. Oui, un bon fauteuil, une bonne chaise, mais le stand, comment il va tomber? Tu sais, je vois que Marco, là, il est super à l'aise comment il est là. Il se le met un peu de côté. C'est ça qui est le fun d'un PSA1. C'est que le PSA1, vous allez pouvoir venir le placer comme vous voulez. À un moment donné, vous voulez l'enlever de votre shot. Oups, vous le tossez, ça, vous le ramenez, c'est super intéressant pour ça. Donc, les perches, encore là, petit maillon de la chaîne, mais tout aussi important que les autres. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a l'interface. Non, 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 on a les câbles. Les câbles, je vous dis pas de vous acheter un câble avec tous des conducteurs en argent, non. Non, non, non. On n'est pas dans l'audiophile ici. On parle d'un câble qui connecte bien. Un bon connecteur, des bons conducteurs, pas un câble qui a été rapiécé, s'il vous plaît. Parce que oui, un câble, ça va vous amener des artefacts audio nuisibles, des problèmes de ground. Écoutez, arrêtez-vous pas, j'en ai vécu en live. Des fois, tu as des runs de 300-400 pieds de câble. Puis là, tu as un buzz, des machines marchent bien. Tu sais que c'est un câble qui ne marche pas. Trouve-les. Donc, c'est important d'avoir des bons câbles. Prenez pas des câbles trop longs pour rien. Oui, c'est vrai, quand on est balancé en XLR, théoriquement, on peut aller jusqu'à 100 pieds sans perdre vraiment. Pourquoi? Tu sais, je veux dire, pourquoi payer plus cher? Vous avez maximum besoin d'un 25 pieds? prenez-vous un 25 pieds. Tu sais, je veux dire, bon, allez pas plus loin que ça. Je vous dis, moi, personnellement, c'est ce que j'aime mieux. Vous n'aurez pas 28 tours de corps à terre que vous allez peut-être vous enfarger ou bon. Voilà. Mais c'est important d'avoir un bon câble. Comme je vous dis, là, quand vous avez des bonnes machines, vous faites un contenu qui est sérieux. C'est bien plate d'avoir des croc-croc puis des gens de petits bruits parce que notre connecteur, il est tout croche. Puis non. Allez vous acheter un câble quand même d'une belle facture, puis vous allez pouvoir profiter de votre équipement là de façon... Puis si vous le roulez bien, votre câble va pogner un twist, il va être facile à rouler, il s'en mêlera pas. J'en ai roulé tellement des câbles dans ma vie, je vous le dis. Donc, prenez soin de placer votre équipement, de mettre un petit velcro. C'est important. C'est bien plate quand un enfant passe, mettons, j'en ai des enfants, puis là, il pile sur un de vos connecteurs, puis il l'écrase. Ben c'est de ma faute. C'est à moi de le serrer comme il faut. T'sais. Fait que toutes les petites choses qu'on prend soin, tu sais, je pense que les équipements, c'est important de aussi faire l'entretien de tout ça. Une fois qu'on a passé ça, ben là, on est rendu à notre interface. Donc, on veut travailler comment? On veut travailler avec quoi? Est-ce qu'on veut travailler avec un microphone USB direct? Est-ce qu'on veut travailler avec une petite carte de son qu'on appelle? C'est plus vraiment des cartes de son. Carte de son sort du terme dans le temps qu'on les incorporait sur notre motherboard de nos ordi. Là, les cartes sont dans une boîte dédiée. Mais on va encore appeler ça une carte de son ou une interface. Donc, en gros, ce que c'est un convertisseur. Ça prend votre audio analogique, ça le convertit avec ce qu'on appelle une fréquence d'échantillonnage, un sampling rate, une profondeur de message, on pourrait dire, un bit depth, ce que vous voyez souvent, 16 bits, 24 bits. Donc, on va convertir avec des paramètres prédéfinis. Et puis, en soi, tout ça, ben, on peut le travailler de façon numérique. Donc, c'est un peu ça qu'on veut avec un convertisseur. C'est ça, sa job. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on a? On a le NT USB présentement. Il y a aussi, Marco, si tu peux me trouver, le NT USB mini, qui est, disons-le quand même, qui est moins cher et qui est une technologie un petit peu plus récente au niveau des convertisseurs. Donc, c'est un très, très, très bon achat aussi. Peut-être un petit peu moins rond dans les bases, peut-être que le gros NT USB, mais néanmoins, c'est très intéressant aussi. Donc, on a ça. Je vous ai parlé tout à l'heure du Podcaster, qui est le Procaster en version blanche. Ça aussi, c'est un convertisseur USB intégré. Donc, le microphone ne sort pas en XLR. Il sort déjà converti en numérique, donc sous le bus USB. Voilà. C'est ça le truc. Le convertisseur, la carte de son est à l'intérieur. En gros, c'est ça. Si vous voyez peut-être pas cette photo-là, mais l'autre d'avant, si on a l'autre face du micro, vous voyez, il y a même, c'est une carte de son. Donc, il y a des entrées et des sorties. Vous avez même des sorties écouteurs avec un volume. Le volume, des fois, que vous allez même avoir souvent un sur certains microphones, comme ben ici, c'est un volume, mais sur le NT USB, vous allez pouvoir faire une balance entre le retour de votre mix qui est dans votre ordinateur, qui joue, et votre voix. Donc, est-ce qu'on voulait avoir la voix plus forte? Le retour de l'ordi plus fort, on peut venir faire une balance entre ça. Donc, c'est des features qui sont sur le microphone, qui font partie de la partie carte de son du device, finalement. Après ça, qu'est-ce qu'on a comme truc? Bien évidemment, je vous ai parlé des interfaces, la AI1, qui a une entrée microphone. Donc, on a un préamplificateur, on donne du gain. On a évidemment la sortie, qui est une sortie stéréo. Stéréo de deux façons. OK, on a la sortie casque ou on a à l'arrière la sortie analogique sur corps de pouce balancé si on veut s'en aller vers des moniteurs. OK? Donc, c'est notre deux façons de travailler notre sortie, notre monitoring dans le terme plus pro. Donc, voilà, très, très, très belle interface, extrêmement solide, toute faite en aluminium, d'un seul morceau, d'un casing, toute faite en un morceau. Finalement, il n'y a pas de soudure. C'est vraiment un truc qui est vraiment bien fait. C'est fait comme un tank. C'est pas très, très dispendieux. La AI1, deux versions, deux façons de se la procurer. Soit qu'on l'achète tout seul comme ça, ou on l'achète dans un bundle qui vient avec le NT1 noir, qu'on a vu un petit peu plus tôt. Le microphone condensateur. C'est un beau kit qui vient avec la carte, le microphone. C'est le NT1 AI1 Recording Kit. Ça, c'est le NT1. Ça, c'est un autre microphone. Ça, c'est le microphone le moins cher dans les condensateurs qu'on a. Beau petit microphone aussi en passant. Mais c'est un kit qui vient avec le micro, le câble, le pop filter, la suspension, vraiment un beau kit, et la AI1 aussi. Donc, c'est un kit complet. Tout ce qui vous manque, c'est un casque ou des moniteurs, en gros. Voilà. Regardez-moi si c'est beau, ça. Donc, c'est un beau kit pour faire de la voix, évidemment, si ça vous tente de chanter. Mais évidemment, bon, quand on parle d'un kit qui est bon pour le chant, évidemment, c'est bon pour le podcasting aussi. C'est ça qu'on enregistre notre voix. Donc, c'est un très, très, très beau produit, une belle solution qui vous est offerte chez Rode. Les interfaces. Oh, je m'ai parlé tout à l'heure un petit peu. Pour faire ça rapidement, je vois le temps qui va très rapidement. Les interfaces, là, on parle souvent de bit depth, puis on parle souvent de fréquence d'échantillonnage. Donc, 16 bits, 24 bits. Je veux juste démystifier ça rapidement. La fréquence d'échantillonnage, vous allez voir ça sur le site de Rode, sur nos différents convertisseurs. Fréquence d'échantillonnage, en gros, là, si on prend, mettons, un CD, on parle d'un 44,1 kHz. Ce que c'est un taux d'échantillonnage, quand on convertit de l'analogique en numérique, on est obligé d'inclure un filtre qui est vraiment un filtre mur de briques. Là, c'est pas sur une pente douce, là. C'est un filtre très, très, très mûr. C'est là que ça arrête. C'est un filtre qu'on appelle un anti-alias, anti-repliement. Le problème, quand on convertit, on a plein d'artefacts audio qui arrivent dans les très, très, très hautes fréquences. Il faut qu'on les filtre, sinon on va les entendre. Donc, il y a un chercheur qui a fait des recherches, qui s'appelle Dr. Nyquist, si je me trompe pas. Lui a établi des limites. Donc, quand comment ça fonctionne en gros, c'est que si on prend une fréquence d'échantillonnage de 48 kHz, lorsqu'on va enregistrer notre podcast, en gros, on rentre la moitié de la fréquence de ça. Donc, on va rentrer jusqu'à un maximum de 24 kHz. Oubliez jamais une chose, parce que je vous entends quasiment penser, il y a du monde qui voit du 96 kHz, du 192 kHz. Oui, il y a un avantage à aller dans la ultra haute résolution, mais oubliez jamais une chose, c'est que notre oreille, quand on est né, on entendait jusqu'à 20 kHz. À l'âge que j'ai là, si j'entends encore à 17, c'est bon. Donc, oubliez jamais ça. Par contre, en enregistrant avec un sampling rate qui est haut, disons 96 kHz, comme vous allez peut-être être tenté de faire, les fréquences que vous entendez vont avoir un peu plus de précision. C'est plus complexe que ça, mais il faut penser aux harmoniques paires. Donc, même si on a l'impression qu'on enregistre des fréquences qu'on n'entend pas, ça va influencer ceux qu'on entend. Donc, il y a avantage à enregistrer avec un sampling rate qui est plus haut. Je vous invite encore là à aller faire des recherches sur ça. C'est très important quand on voit des enregistrements de vieux albums jazz, parce que je suis un peu dans, comme Marco l'expliquait, je suis un peu dans le home hi-fi haut de gamme aussi. Donc, les gros convertisseurs qu'on peut reconvertir du 192 kHz, dites-vous que ça part d'un tape, ces enregistrements-là. Donc, ça part dans le domaine purement analogique où, en théorie, on enregistrait des fréquences à l'infini. En théorie. Donc, on n'avait pas ces fameux filtres anti-alias qu'on avait besoin d'utiliser. Donc, c'est pour ça qu'on est capable d'enregistrer dans des taux extrêmement hauts pour être sûr qu'on perd de rien. Donc, c'est ça l'idée un peu alentour de ça. Mais dites-vous, vous autres, là, si vous faites un bon enregistrement avec une bonne chaîne audio à du 44,1, à la limite du 48, vous en avez en masse. Je vous le dis par expérience. Fait que les 96 et ces choses-là, oui, c'est le fun, mais on le prend avec parcimonie. Je vous le dis tout de suite. Il y a moyen d'arriver à des excellents recordings à du 44,1. Je vous prie de me croire. Donc, ensuite, si on continue dans les convertisseurs, ben on a les surfaces de contrôle aussi. La Rodecaster Pro en est un excellent exemple. Je suis content d'avoir cet exemple-là à vous présenter. Donc, ce que c'est, ben encore là, c'est une interface. C'est avec des features. Grosso modo, on a des faders. On est capable de contrôler nos entrées. En gros, on mixe plusieurs produits en un avec la Rodecaster Pro. On mixe, évidemment, une console, donc avec les préamplificateurs, avec les faders, donc avec les sliders de volume. On a évidemment, c'est une console numérique avec évidemment un processeur à l'intérieur qui est quand même assez puissant, je dois le dire. Donc, on peut maintenant, avec la dernière version du firmware 2.1, pour ceux qui l'ont et qui n'ont pas fait l'update, je vous invite grandement à la faire. Maintenant, tous les processeurs, compresseurs, DSR, tous les petits outils audio que vous avez on board dans la machine sont tous éditables maintenant. Donc, vous pouvez tout contrôler les paramètres. Donc, ceux qui ont un peu plus, qui sont un peu plus loin dans le son ou ceux qui veulent aller plus loin dans le son, ben, la Rodecaster Pro, là, c'est rendu pouf, là, ça vient d'ouvrir les horizons sur le, excusez-moi le terme, sur le tweakage. C'est hallucinant. On a vraiment quelque chose. Moi, quand je montrais ça au début, à mes gros techniciens de pro en recording, ils me disaient, ouais, c'est bien beau, il y a un compresseur, mais moi, je veux le tweaker, mon compresseur. Je veux jouer avec les paramètres. Ouais, c'est vrai. Mais là, boum, tout est éditable. Mais vous pouvez aussi utiliser comme c'était avant, tout automatique. Donc, faites-vous en pas, là. On ne part pas nécessairement dans un monde où vous pouvez apprendre les rudiments du traitement dynamique, là, bouchée par bouchée, là. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Donc, les surfaces de contrôle intégrées, interfaces, des préamplificateurs, évidemment, des amplis d'écouteurs. Moi, je travaille avec la Rodecaster Pro présentement, là. Donc, vous avez évidemment les pads pour envoyer des clips audio. Ça peut être des jingles, ça peut être des entrevues que vous avez déjà préenregistrées. Peu importe c'est quoi, ça peut être des centres d'effets, tout simplement. Tout ce qui va vous tenter de faire. Donc, vous avez une machine de playback ici. Vous avez plusieurs façons de la travailler. Vous avez évidemment, vous pouvez, quand vous pesez le piton, ça fait play. Si vous, deuxième fois vous pesez, ça peut repartir le play. Ça peut arrêter l'enregistrement. Donc, il y a différents modes qu'on peut customiser un peu nos pads ici de playback. Donc, c'est, je vous invite. Écoutez, je pense, Marco, si t'es d'accord, on va faire quelque chose juste à Rodecaster Pro parce que je vous aurais fait un training. Quand ça a sorti, ça aurait pris 2 heures. Aller dans le fond. Là, on a eu 5-6 nouvelles updates sur la même machine. D'ailleurs, là, il n'y a rien d'hardware à changer. Puis là, ça en prendrait 3 heures. Parce que c'est fou la machine qu'on a ici présentement. Aujourd'hui, là, à l'heure qu'on se parle. Donc, Marco, on va faire quelque chose de plus un masterclass juste là-dessus. Ouais. Je pense que ça va valoir la peine. Donc, ça fait un petit peu le tour de tout ce qui est en entrée. Évidemment, je pourrais vous parler des casques, je pourrais vous parler des moniteurs. On se rendra pas là parce que, premièrement, je voulais vous parler de Rode en gros. Donc, Rode ne fait pas justement de casque, ne fait pas de moniteur. Moi, je suis représentant pour d'autres compagnies que, bon, évidemment, peut-être qu'un jour, on va embarquer sur ça. Mais pour Rode, présentement, c'est vraiment en entrée qu'on travaille bien. Donc, on fait un petit roundup rapide. Microdynamique, microcondensateur, les microphones USB qu'on rentre plus dans la catégorie interface. Les microphones USB, c'est bien le fun. Mais si vous voulez changer de micro à un moment donné, ben ça va vous prendre une autre carte de son. Donc, c'est tous des petits compromis qu'on est-tu prêt à faire ou pas. On achète une AI-1 avec le kit NT1. Ben, on veut s'acheter un autre micro à un moment donné, un SM7, un PodMic, un RE20. Ben, on a toujours l'interface. Avec un bon 55 dB de gain. Je prendrai un cloud pareil pour un cloud lifter pour le SM7. Le RE20 55, c'est en masse, DB. Le PodMic aussi, et tous les autres mics dynamiques, il n'y a pas de problème. Donc, c'est faut faire les bons choix. Aujourd'hui, les dollars, on veut investir à la bonne place. Il y a plein de produits sur le terrain présentement dans les magasins, mais qu'est-ce qu'on a besoin? C'est quoi qu'on veut atteindre? C'est quoi le potentiel où ce qu'on veut se rendre aussi? Donc, je trouve ça important de regarder tout ça. Et puis, voilà, comme je vous dis, microphone USB, microphone dynamique, condensateur. Chez Rode, on a plein de solutions. Là, je vous ai même pas parlé des microphones shotgun, des microphones canon. J'en utilise un présentement. Pourquoi pas utiliser ça? Oui, c'est un microphone qui, selon la théorie, est plus beamé, qu'on appelle. Donc, est plus narrow dans sa captation, plus étroit. C'est vrai. Mais par contre, quand tu as une acoustique, disons, moyenne, ben, c'est un microphone-là, vu qu'il fait une rejection, excusez-moi les termes anglais, mais sur les côtés un peu plus, Ben, les réflexions de nos, automatiquement, les réflexions de nos murs sont atténuées dans la captation. Donc, il faut faire attention. Des fois, on se dit, oh, j'ai pas le bon micro. Attends une minute. Utilise-le. Fais ton application. Fais des tests. Optimise ta chaîne de signal, pardon. Et après ça, vous serez en mesure de vous dire, bon, ben là, j'ai besoin d'un tel produit. Parce que si vous vous garochez dans toutes sortes d'achats, toutes sortes d'affaires, vous le savez pas trop, là. T'sais, là, je parle à quelqu'un qui est déjà équipé et qui veut s'acheter quelques pièces d'équipement. Donc, je dirais, faites de l'expérimentation, promenez-vous dans votre pièce, faites des recording tests, différents microphones, différentes distances, amusez-vous avec ça. Puis après ça, vous allez être beaucoup plus en mesure d'identifier sont où vos maillons les plus faibles. Puis après ça, ben, vous travaillez. Comme je vous dis, moi, j'ai vu des techniciens de son en live, en studio, des studios maison. Je vous ferai écouter des albums, tout avec des SM57 de Shure. Je dis, mais voyons donc. Mais la prise de son est optimisée sans bon sens. Donc, allez-y avec un learning curve. Puis, je vous dis, en travaillant les principes audio avec les bons produits, on est capable de faire de quoi d'exceptionnel. Donc, en gros, ça finit un petit peu ma présentation. Je vous ai pas parlé un petit peu du 24 bits, 16 bits. Ça, c'est la quantification. En gros, je vais peut-être juste finir avec ça. Donc, la quantification dans un convertisseur, c'est très important aussi. Je viens de voir que j'en ai pas parlé. Donc, on a des trucs 16 bits, 24 bits. Vous avez vu ça? Vous allez voir ça dans les spécifications des manufacturiers. Ce que c'est, en gros, c'est la quantification. Donc, on avait le sampling rate tantôt, la fréquence d'échantillonnage. Dans le convertisseur, ben, on choisit aussi une profondeur du message binaire. Donc, c'est la quantification. L'idée, c'est que du 24 bits, vous avez plus de marches. Voyez-les comme des marches dans votre longueur d'onde qui devient steppée en numérique parce que c'est des 0 ou des 1. C'est ouvert ou c'est fermé. Des pits, des vallées. Donc, en gros, c'est plus sur votre plage dynamique en numérique, le nombre de dB qu'on peut rentrer dans la boîte, si on peut dire, ben c'est on le quantifie en comment, au niveau précision. Donc, ça donne au niveau de la dynamique, variante des sons, plus de précision qu'en 16 bits, plus vous montez. Donc, c'est un peu ça la quantification. J'espère que ça... J'ai fait ça rapidement, j'ai essayé de consulter mes notes le plus rapidement possible. J'ai droppé des idées, des affaires que je pensais bien qui pouvaient vous aider. Mais encore là, Marco, on en a parlé. On pourra parler super longtemps de tout ça. Je pourrais faire des cours juste sur l'audio. Mais évidemment, si vous avez des questions, outre cette heure-là aujourd'hui, passez par Marco, n'hésitez pas. On se parle souvent, Marco puis moi. Fait que je vais répondre à vos questions par courriel ou quoi que ce soit. On est comme des partners là-dedans, puis moi, je vais vous donner tout le support que je suis capable de vous donner. Comme vous voyez un petit peu, j'aime beaucoup parler d'audio. Je peux me perdre rapidement dans mes idées. C'est pour ça que je me prends beaucoup des notes. Mais écoutez, il y a plusieurs façons de faire du son. J'ai fait toutes sortes de façons dans ma vie. Puis je vous dis, travaillez une belle chaîne audio, optimisez votre signal, travaillez vos appareils adéquatement. Oubliez pas l'acoustique. Oubliez pas votre posture face au micro. Tu sais, parler de même, là, on est hors axe. On n'aura jamais le résultat escompté. Donc, je pense que c'est important. Puis quand vous allez travailler votre podcast, vous allez mixer votre podcast, parce que ce qui est le fun, c'est qu'un podcast, c'est pas, vous n'êtes pas peinturé d'un coin. Vous pouvez le retravailler, puis après ça, aller l'héberger sur un serveur. Bien, placez-vous comme il faut. Une bonne chaise, des bons moniteurs, pas trop de fatigue auditive, un volume restreint. C'est pas mal les trucs que je pourrais vous donner. Donc voilà, Marco, si les gens ont des questions.
Donc, c'était Benoît Varin. Alors, on a eu droit à 45 minutes de dynamite. On a eu droit à 45 minutes de contenu vraiment tout à fait incroyable. Très, très content de l'avoir présenté à ma gang du Mastermind. On a pu apprendre. Puis après ça, on a eu une période, un Q&A où les gens posaient des questions sur leur propre équipement qu'ils utilisent en temps normal, qu'ils utilisaient déjà ou qu'ils avaient l'intention peut-être d'acheter dans un avenir approché. Donc, les gens ont posé des questions à Benoît. On en a eu pour au moins une autre demi-heure à pouvoir faire du... à se lancer la balle puis à répondre aux questions des gens. Donc, ça a été vraiment très, très, très apprécié des membres. Et ben ce type d'événement-là, ben ça arrive minimalement une fois par mois, les masterclass. Les trois autres activités du bois, ben ce sont des activités qui qui diffèrent. Donc, il y a des choses qui changent d'une semaine à l'autre. Il y a des activités que c'est plus des trucs de formation. Donc, il y a des vidéos qui sont en lien avec les formations. Il y a ce qu'on appelle des hot seats, donc où il y a des membres qui se font analyser leur podcast par les autres membres. Donc, il y a des activités comme ça. Et il y a une foule d'autres activités aussi dont je réserve la surprise parce qu'il faut quand même réserver un peu de surprise. Mais il y a au moins 7 ou 8 concepts différents d'activités qui prennent le relais un de l'autre justement pour faire en sorte qu'on a de quoi de différent à chaque semaine qui se présente. Mais la masterclass, ben, c'est quelque chose qu'on voit pas mal à chaque mois depuis les débuts du Mastermind au printemps dernier. Donc, si jamais ça t'intéresse de déposer ta candidature pour faire partie du Mastermind Momentum la prochaine fois que les portes vont être ouvertes. Dans quelques semaines, en fait, les portes vont ouvrir à nouveau. Alors, si jamais ça t'intéresse de participer à ça, de développer ton podcast, de continuer d'améliorer ton podcast, peut-être le podcast qui est déjà là, mais qui stagne, que tu as de la difficulté, que tu as atteint un certain plateau au niveau des statistiques, au niveau de ton audience, puis tu cherches des façons, peut-être soit de monétiser, soit de promouvoir pour augmenter encore ton audience, ben tu peux déposer ta candidature sur le academypodcast.com/momentum tout simplement pour être en mesure de déposer ta candidature et éventuellement ben, peut-être faire partie de ce groupe et de joindre le groupe de présentement, comme je le disais tantôt en début d'émission, on parle de 27 personnes qui sont là présentement à travailler d'arrache-pied pour améliorer leur podcast. C'est un groupe qui est tout à fait unique et qui vraiment est très, très, très soudé déjà, malgré que c'est quand même relativement nouveau. Là, on parle de 3 mois au moment où on se parle environ, mais le groupe est très soudé. Le groupe est là pour vraiment s'entraider. C'est vraiment très, très, très formateur pour tout le monde. Les gens s'aident. Les gens n'hésitent pas à poster dans le groupe Facebook, puisqu'on a le droit à un groupe Facebook avec ça. Donc, les gens peuvent vraiment s'entraider entre eux par rapport à ça. Donc, vraiment, là, on a un super groupe très, très, très dynamique. Donc, si jamais ça t'intéresse, academypodcast.com/momentum, tout simplement, pour déposer ta candidature. Alors, voilà qui termine cet épisode 107. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao tout le monde!